de Grenouille était au mercredi de Montevideo pour la présentation de la dernière livraison de la revue IF. Une revue où s'exposent des chantiers poétiques. Une revue toujours accompagnée d'un cahier visuel et d'un cahier critique. Ce soir-là, était présent Hubert Collat, directeur de la publication, Laura Vasquez, auteur, qui nous a lu son texte publié dans la revue « Vous êtes qui ?» et Nicolas Guimbard, comédien, qui a lu « L'amour bilan », un texte de Mohamed El-Khatib. La revue IF est distribuée par la maison d'édition Les Solitaires Intempestifs.
Bienvenue au mercredi de Montevideo. Merci d'être venu. Alors ce soir, c'est les mercredis de Montevideo autour de la revue IF et son numéro 43 qui vient de paraître. C'est une revue qui a deux numéros par an. Numéro 43, créé en 1992 par Jean-Jacques Vuitton, Liliane Giraudon et puis Henri Deluy. Et qui est aujourd'hui dirigé par Hubert Collat. Bonjour Hubert Collat.
Bonsoir.
Et alors, cette revue numéro 43, aujourd'hui, c'est la thématique de l'amour. Parce que c'est une série de textes proposés à différents auteurs, Laura Vasquez, Edith Azam, Mohamed El-Khatib, Mustapha Benfodil. À chacun leur a été proposé d'écrire sur l'amour. Alors pourquoi l'amour ?
C'est pas vraiment, en fait, c'est pas moi qui ai choisi le thème pour dire la vérité, même si ce sujet m'intéresse. Mais c'est Alfortville, en fait, qui a invité la revue IF, en fait, la semaine dernière. Et c'est la première programmation d'une nouvelle directrice qui s'appelle Maïté Rivière et qui m'a proposé, en fait, qu'on fasse l'ouverture de son nouveau festival avec la revue IF, entre autres. Et son festival avait une thématique, c'était sur l'amour. Donc, du coup. Elle m'a pas demandé absolument de faire une revue IF sur l'amour. Elle a dit que ça serait bien s'il y avait un ou deux textes. Et du coup, j'ai pensé que c'était du coup plus juste de penser la revue dans sa totalité, à l'exception d'un extrait de texte de Baptiste Aman, qui est un des artistes que nous défendons aussi à Montevideo.
Oui, parce que donc du coup, l'amour comme ça se décline. Ce qui reste de l'amour, par exemple, le texte de Mustapha Benfodil. Mustapha Benfodil, qui est un auteur qu'on a pu rencontré ici,
oui,
à Montevideo.
Oui, qui est venu plusieurs fois, ouais. Et puis qui est un habitué de Marseille, et puis que j'ai rencontré aussi en Algérie. Et après, j'étais, en fait, en invitant ces quatre auteurs, j'étais très curieux, connaissant leurs écrits, comment ils allaient appréhender cette thématique.
Les quatre auteurs, c'est Mustapha Benfodil, Edith Azam, Mohamed El-Khatib et Laura Vasquez.
Oui. Et du coup, j'étais curieux de l'appréhension. J'avais des pressentiment pour certains, mais en fait c'était la découverte comme ça d'un champ qu'on pourrait qualifier d'intime à un moment donné, et en tous les cas d'une écriture qui peut faire résonner l'intime.
On a comme ça un peu ce qui reste de l'amour dans le texte de Mustapha Benfodil, un peu l'amour, ce qu'il en reste et comment s'étrace à travers aussi l'écriture sur le corps de l'autre. Il y a l'appel de l'amour ou quelque chose de la conduite de l'amour avec Edith Azam. Ou avec Mohamed El-Khatib, c'est l'amour au pluriel, un peu bilan sur les amours, où est-ce qu'il en est. Cette revue, c'est une revue à la fois de facture littéraire, mais aussi de facture visuelle. Il y a ces
documents. Joe Blackpeter, dedans, qui est un plasticien américain. Et c'est vrai que dans la revue, à partir du moment, enfin, où on l'a reprise ici à Montevideo, j'avais le souhait qu'elle s'ouvre aussi aux arts visuels et que c'était important qu'entre littérature, poésie, écriture des nouvelles dramaturgies, il y ait un lien aussi parce que je fais de la scénographie, que c'est une chose importante dans mon travail, que des plasticiens travaillent avec moi sur les objets de cette revue. Le fait que Laurent Garbit aussi y participe en tant que graphiste et artiste à la conception graphique était aussi importante. Et Gio Blackpeter, c'est un lien à l'amour, parce que beaucoup de ces peintures ou de ces dessins sont quand même très empreints pour moi de ça. Et puis Marc-Antoine Serra aussi qui est là et qui a proposé un certain nombre de photos aussi qui sont des appréhensions sensible pour moi de son, de sa vie.
Et puis il y a aussi un cahier critique. Là, cette fois-ci, c'est Quentin Margne, qui est critique pour Inferno, notamment. Et là, c'est un cahier critique, donc critique de livres parus dernièrement, comme par exemple le livre d'Amandine André de la Destruction, mais aussi de pièces vues comme Texte M de Hubert Collat ou Lotissement de Frédéric Vossier. Là aussi, cette présence comme ça du cahier critique, c'est...
En fait, c'était de donner l'occasion, je crois, à des journalistes aussi, et à des personnalités qui regardent l'art, d'avoir un espace libre, en fait, pour renouveler le champ de la critique d'une certaine façon, et pas du tout sur une problématique de rendement comme la presse à l'heure actuelle finalement gouverne. Et donc, j'avais envie, en fait, que des journalistes et des écrivains puissent avoir cet espace-là à l'intérieur de la revue. Et on va continuer parce que je pense que ça me paraît un espace essentiel.
1992, ça veut dire que c'est une revue qui s'est inscrite comme ça dans le paysage, hein, tout de même. C'est une revue qui a de l'âge, qui s'est inscrite. Et c'est quoi un peu, comment on pourrait qualifier sa signature, sa marque de fabrique, par exemple? Souvent, tu parles de chantier d'écriture. Est-ce que c'est le chantier? Est-ce que c'est le caractère ouvert pour eux, c'est-à-dire des écritures qui se confrontent à d'autres types d'écritures?
En tous les cas, pour celle-ci, c'est un petit peu particulier, parce que du coup, comme il y avait une thématique et une commande d'écriture qui était faite, ça a changé finalement des autres numéros, où souvent c'est des écritures en cours, ou des inédits, ou des morceaux d'œuvres que j'ai pu lire et que je trouve pertinent de faire entendre parce qu'elles sont moins connues. Ça s'inscrit comme ça. Après, c'est... Il n'y a pas une règle de conduite absolue sur cette revue au-delà du désir de continuer le chemin qu'il y a eu précédemment, mais qui était essentiellement littéraire et poétique. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on essaie de la continuer en fonction de l'action qu'ont mené Jean-Jacques et Liliane et Henri dans leur revue, et aussi de ce que nous faisons à Montevideo et aussi dans le cadre du Festival Actoral. Il s'agit à un moment donné d'accompagner aussi des écritures, des artistes, au même titre qu'on les accompagne ici au moment de l'oralité, on va dire, au moment de la mise en scène ou d'une élaboration de chantier. Je pense que cette revue est une forme de témoin parallèle des activités qui s'y mènent ou des activités qui vont être menées ici plus tard.
Alors, c'est une revue qu'on peut trouver évidemment ici à Montevideo, mais qu'on peut trouver dans différentes librairies en France, notamment à Marseille, à l'Histoire de l'œil et puis à l'Odeur du temps, hein, je crois qu'on peut trouver. Alors, cette soirée, elle sera en deux temps. Il y aura d'abord une lecture du texte de Mohamed El Khatib, qui a pour titre « L'amour, bilan », entre parenthèses. Cette lecture sera faite par Nicolas Guimbard. Alors Mohamed El Khatib, on l'a déjà vu hein, ici à Marseille, notamment à Actoral 14 et Actoral 13. Actoral 14, il avait présenté Finir en beauté.
Ouais.
Actoral 13, c'était une lecture. Et puis on a pu le voir aussi au Biennale des Écritures du Réel, il me semble, où il présentait Moi, Corinne Dada. Et chez Mohamed El Khatib, la question de l'amour traverse toute son œuvre. Quand je dis qu'on l'a déjà vu à Marseille, c'est pour dire aussi que les auteurs qui sont présents dans cette revue IFS sont des auteurs qu'on retrouve régulièrement ici, hein, à Montevideo.
Ils viennent en résidence régulièrement ou se croisent, ou comme Laura qui dirige aussi la revue Muscle. C'est aussi des chemins et peut-être l'écrivain que je connais le moins, en tous les cas comme ça, c'est Laura. Et les autres, ils ont été souvent ici en résidence. Et puis c'est des parcours aussi qui sont liés à la scène pour certains, et notamment aussi avec Edith Azam, puisque j'entraîne un peu Edith Azam vers le théâtre en ce moment. Moustapha comme Mohamed sont déjà aussi des écrivains qui vont vers le théâtre, mais pour Edith c'est des pas un peu particuliers ces derniers temps, en tous les cas.
Il y aura cette lecture de Nicolas, et puis ensuite on aura une petite discussion avec Nicolas qui est comédien, qui depuis longtemps et travailler par cette question de l'amour. On discutera un petit peu avec lui de comment il s'est approprié ce texte. Et puis après, on écoutera Laura Vasquez qui lira donc son texte. Vous êtes qui? Alors, si Laura Vasquez, tu la connais un petit peu moins, il ne reste pas moins qu'il y a un rendez-vous qui est proposé d'ailleurs avec Laura Vasquez dans pas longtemps sur les mercredis de Montevideo, parce que Laura Vasquez, eh bien, elle conduit aussi, ou elle propose une revue, elle dirige une revue avec Arnaud Cagella, qui est dans le coin, je crois, qui est là ce soir, qui s'appelle Muscle et qui sera présenté ici dans les rencontres de Montevideo, je crois, le 6 avril, voilà, le 6 avril prochain, la revue Muscle. On en parlera tout à l'heure avec Laura Vasquez. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est qu'on écoute cette lecture de Nicolas Guimbard, de Mohamed El-Khatib, Amour, bilan.
Tu crois que ça existe, l'amour inconditionnel ? Oui, je pense. Tu m'aimes de façon inconditionnelle, toi ? Moi, je suis pas ta mère. Je t'aime de façon inconditionnelle, moyennant quelques conditions. L'amour. Bilan. J'ai procédé d'abord à un bilan comptable, un travail de mémoire minutieux et laborieux qui m'a permis d'établir une liste de 53 prénoms. Ce qui n'est pas ridicule sans être dément. Le commencement était discutable parce que j'ai mis dans la liste Flora Veno, dont j'étais amoureux en CP, CE1 et CE2. Alors que le premier baiser, c'était en CM1 avec Stéphanie Lénis. Alors, je me permets de garder les vrais noms. Il y a peu de chances qu'elle soit abonnée à cette revue. Bon, c'est bon. De cette généalogie amoureuse, j'ai décidé de partager les trois souvenirs amoureux les plus vivaces qui ont sans doute façonné mon rapport à l'amour aujourd'hui. Stéphanie Callias. Je suis en 5e D et Stéphanie, elle est en 3e. 2 ans d'écart qui semblent une éternité au collège. Je suis dingue d'elle et je finis par apprendre qu'elle me trouve mignon. Sa meilleure copine, Juliette, vient me dire que Stéphanie veut bien sortir avec moi. C'est irréel. Rendez-vous. Au lendemain, à la récréation de 10h, je suis tendu, intimidé et tellement heureux et excité d'enfin pouvoir embrasser celle que j'aime secrètement. C'est un vendredi de janvier, il fait froid, mais très froid. On se retrouve à la récréation, on échange quelques banalités, mais à ce stade, je n'ose rien entreprendre. Pourtant, on sait l'un comme l'autre que c'est acquis, que l'autre nous plaît et qu'on va sortir ensemble officiellement d'un moment à l'autre. Ça sonne, c'est la fin de la récréation et il ne s'est toujours rien passé. C'est le moment de tenter quelque chose et là, je lui dis, il fait froid, hein ? Oui, il fait vraiment froid. J'ai la langue glacée. Tu veux pas me la réchauffer ? Et là, toute la magie cesse. Elle me regarde et me dit « T'es un peu lourd. T'es un vrai gamin. » Puis elle s'en va brusquement. Ça m'a traumatisé. Mathilde Lefebvre. Je suis en Hippocagne, j'ai 18 ans, j'évolue dans un milieu où je ne suis pas particulièrement à l'aise. Je tombe amoureux de Mathilde, elle fait partie de ma promotion mais ne m'adresse jamais la parole, sans doute parce que je devais être encore un peu lourd, mais sûrement parce qu'on n'appartenait pas tout à fait au même monde. J'étais dépourvu des tenues vestimentaires adéquates et des postures qui vont avec. Moi, transfuge de classe discret, je me donnais toutes les peines du monde pour intégrer ces cercles que j'enviais. Chaque week-end, il y avait des fêtes auxquelles je n'étais pas invité. C'est à cette époque que j'ai entrepris d'apprendre par cœur tous les poèmes de Mallarmé. Un poème par week-end pendant 2 ans, l'exclusion a quelques vertus. Mais moi, je voulais en être. Puis le contact a lieu, je ne sais plus comment, mais je finis par être invité chez Mathilde, dont les parents chirurgiens possédaient un manoir sur les bords de Loire. Elle me propose même de venir dîner avant la soirée chez ses parents. Cette fois, je ne vais pas faire le coup de la langue gelée. Je laisse venir. Et pendant le repas, je traque les us de mes hôtes pour un mimétisme vital qui m'éviterait d'être confondu. Première question, premier coup près. Vous écoutez quoi comme musique? Il aura fallu pas moins de 12 secondes pour être hors jeu. Je m'enfonce lentement dans cette soirée qui devient interminable. La deuxième question finit de m'achever. Ils font quoi, vos parents? On n'a pas fini l'entrée que je suis déjà disqualifié. Mais je l'étais sans doute avant, à la minute même où j'avais prononcé mon prénom. Mais par je ne sais quel miracle, Mathilde, qui a peut-être été attendrie, fait comme si de rien n'était et m'invite à poursuivre la soirée en sa compagnie. Cette fille m'impressionne. Elle a tout pour elle, moi j'ai mes complexes pour moi, pourtant je commence à y croire. Après tout, je joue hyper bien au foot et je connais tout Mallarmé par cœur. On ne doit pas être nombreux en France. La magie opère à mesure que je me demande pour combien de temps. La soirée est merveilleuse. Si bien que vers minuit, elle me propose de la raccompagner chez elle, puis de dormir avec elle, puis on fait l'amour. C'est pas formidable, mais on a fait l'amour. C'est incroyable. Je m'endors dans ses bras. Je suis heureux. Paisible. Tellement paisible que je me mets à rêver que je marche au bord de l'eau. Il fait beau. Le paysage est sublime. Je suis tellement bien. Je m'approche de l'eau. Je crois que je vais aller me baigner. Je me déshabille. Puis, avant de me jeter à l'eau, je me mets à faire pipi. Comme un soulagement. Je me relâche. Le jet est continu et j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux, mais c'est sur Mathilde que je suis en train de pisser chaudement. Je me liquéfie à mesure que je reprends conscience. En panique, je tourne la tête, j'aperçois une bouteille d'eau et par instinct de survie, sans réfléchir, un peu comme Ben Arfa quand il effectue un dribble, je me jette sur la bouteille d'eau et je fais mine de boire, je renverse la bouteille d'eau sur nous, je réveille brutalement Mathilde en lui disant que j'ai renversé de l'eau par accident, qu'il faut vite changer les draps pour ne pas prendre froid. Elle n'a rien dit. Elle ne m'a plus jamais rien dit. Quelques années plus tard, je suis allé voir un psychanalyste. Je lui ai demandé s'il avait été possible que j'aie inconsciemment moi-même saboté cette histoire, ou si c'était un réflexe politique profondément ancré qui m'a poussé à pisser sur la bourgeoisie. Il me dit « Monsieur, quand on fait pipi, ça a à voir avec la mer. » Je n'en attendais pas moins d'un psychanalyste, paraît que je cherchais à noyer ma mère pour lui échapper, mais j'ai toujours préféré l'hypothèse du geste politique. Sophie Pancol. L'amour, c'est beaucoup de salive. J'ai 27 ans. J'ai essuyé des échecs, parfois violents, mais pas que. Des moments heureux aussi, de belles histoires comme avec Carole Henry. Mais à la fin, elle voulait toujours des enfants. Moi, je n'ai jamais été contre en théorie, mais en théorie, tout se passe bien. Donc ça s'arrêtait. Et puis j'ai rencontré Sophie qui avait déjà un enfant. on s'est aimé passionnément. Pendant 3 ans, j'ai vécu l'enfer d'un amour passionnel. J'ai failli tout arrêter pour elle. J'ai presque failli arrêter de vivre. Un soir, elle m'a sauvé la vie. Nous étions en voiture entre Cherbourg et Caen. Nous avions interrompu notre week-end en raison d'une énième crise de jalousie qui dégénérait. Sur le trajet retour, le ton monte violemment, j'arrête le véhicule. Elle me dit « Regarde-moi bien ». Je la regarde. Puis elle me crache au visage. C'est tout ce que tu mérites. Je lui ai demandé de descendre de la voiture, c'était sa voiture. Puis je suis sorti en l'abandonnant quelque part entre Cherbourg et Caen, sur la 4 voies. Son téléphone portable était dans la boîte à gants. Elle pensait sans doute que je finirais par faire demi-tour. Je ne suis jamais retourné à Cherbourg, je ne veux plus jamais la revoir. Pourtant, si elle ne m'avait pas craché dessus, je crois que je ne m'en serais jamais sorti.
Merci Nicolas. Tout à l'heure, je disais que tu étais comédien et que, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je sais, pour te connaître un petit peu, que cette question de l'amour, c'est quelque chose qui revient un peu sans cesse, non, chez toi. C'est quelque chose que tu travailles comme ça depuis longtemps. Je ne sais pas si le mot travailler d'ailleurs est juste, hein. C'est peut-être autre chose que travailler, c'est peut-être l'obsession. Du coup, peut-être tu peux nous dire quelques mots sur comment ce texte, tu l'as reçu. Parce que tu l'as reçu il y a 2 jours.
Ben non, mais ce que j'ai adoré dans ce texte, c'est qu'il est, il est hyper simple. Et évidemment, la simplicité, c'est très compliqué. Donc, voilà, je trouve ça très, très beau, en fait. Après, pour moi... disons que oui, c'est une obsession, totalement.
Et pourquoi l'amour, c'est une obsession ?
Bah, parce que je suis un roué. Je pense beaucoup à Sade, hein, dans La philosophie dans le boudoir, qui nomme comme ça les Dolmancé et Madame de Saint-Ange, qui sont donc les libertins, les principaux protagonistes de La philosophie dans le boudoir, et qui se présentent définitivement comme des roués, c'est-à-dire des gens qui sont jetés sur la terre. Et je crois qu'il y a, aussi la métaphore de très éculée par ailleurs, mais de la rose et de l'épine, comme par hasard. Et c'est sûr que c'est d'ailleurs un détail de toute la littérature, enfin une certaine littérature amoureuse. Mais c'est obsessionnel plutôt, c'est-à-dire que c'est, je sais pas, j'ai l'impression de consacrer ma vie à ça.
C'est l'amour qui écorche.
Entre autres, pas que, mais pas que.
Et puis il y a une chose aussi, juste avant qu'on se voit tout à l'heure, tu m'as fait écouter une sorte de petite auto-interview que tu as fait avec ton petit téléphone.
Mais non, c'est un manifeste.
C'est un manifeste, c'est le début d'un manifeste. Sur l'amour et aussi sur le jeu, l'écriture.
Ouais.
Et le jeu, pourquoi le jeu ?
D'ailleurs, qu'on retrouve chez lui, ouais. Et c'est tout ce que j'aime. Je crois même que, ça regarde que moi et tout le monde s'en fout, mais moi, personnellement, ça n'est que ça que j'aime. Parce que j'ai été bouleversé par Duras, Hervé Guibert, entre autres, et que je pense qu'aujourd'hui... je te citais tout à l'heure Duras, qui, il y a 30 ans, disait en l'an 2000... Il y aura plus de gens qui lisent, mais il y aura plein de gens qui écriront. Et je trouve que... Enfin, j'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour les gens qui écrivent et qui consacrent leur vie en tant qu'écrivain, bien sûr. Mais Pour moi, s'il devait y avoir une définition du contemporain dans ce domaine, c'est, je pense que ce qui est beau, c'est d'essayer d'écrire au présent de l'indicatif et à la première personne du singulier. Et qu'à partir de là, de toute façon, quelles que soient les formes que ça prend, dans le fond, ou quelles que soient les sensibilités, que, les émotions que ça déploie, etc., de toute façon, du coup, il y a quelque chose qui s'inscrit à un endroit qui me semble le plus juste.
Parce qu'on écrit à partir de ses propres expériences, quoi, ses propres émotions.
Oui, mais pas que. Enfin, je pense qu'à partir du moment où tu commences à écrire, de toute façon, la fiction prend le dessus. Parce que la mémoire ment aussi. Donc, de toute façon. Non, je pense que c'est plus lié à la mémoire, d'ailleurs, que réellement. Bien sûr, c'est très intime, mais c'est plus. Moi, je trouve que ce qui est beau, c'est de confronter. Pour ça, le temps du présent, d'ailleurs, c'est d'aller. Justement enquêter des choses du passé et puis les mettre au présent et puis voir ce qu'il en reste.
T'avais eu l'occasion de voir un travail de Mohamed El-Khatib ou pas?
Oui, bah en fait, du coup, ça m'est revenu. J'avais vu un truc ici, justement sur sa mère, sur la Renault 12 et un film qui commençait à faire sur la Renault 12.
Finir en beauté, je pense. Non,
oui, c'est ça. Mais c'était une esquisse, hein. C'était même pas actoral, c'était une présentation.
Mohamed El-Khatib qui fait souvent dans son travail une confrontation comme ça entre l'écriture telle qu'on a pu l'entendre là, et puis une confrontation avec la vidéo. La vidéo est très aussi souvent présente dans son travail, comme ça, quand on parlait aussi de la revue IF comme espace de confrontation des différents champs, comment l'écriture se confronte à la vidéo, l'écriture se confronte à l'art plastique. L'écriture se confronte comme ça à d'autres champs, les porosités, ça c'est typique. En tout cas, c'est une vraie signature du travail de Mohamed El-Khatib. Je sais aussi que depuis peu, tu explores la danse un petit peu.
Oh ouais, très, oui.
Avec Régine Chopineau ou Thierry Chunyang, qu'est-ce que tu vas chercher de ce côté-là?
Oui, et puis bientôt avec Jean-Luc Verna, je suis content. Parce que, en fait, de plus en plus, mais je crois que je fais partie de ces gens qui, je suis plus si jeune que ça, et enfin, c'est-à-dire, je fais partie de ces gens qui font du théâtre en détestant le théâtre, en fait. Donc c'est compliqué et ça demande beaucoup d'expérience, des moments où on se plante totalement, des moments où on fait des trucs beaux aussi. Mais du coup, la danse, ce que j'ai aimé au départ, ce qui m'a attiré, d'abord, c'est parce que j'aime beaucoup les danseurs, je les trouve très beaux et ils m'attirent puissamment, notamment dans les zones amoureuses, justement. parce que c'est des corps blessés aussi, beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Et la danse, ce qui m'a plu au départ, c'est qu'il n'y avait pas de mots. En fait, enfin, c'est un peu con parce qu'il y a aussi beaucoup d'expressions de danse où ça parle, mais a priori, c'est vrai que ce qui fait théâtre, c'est qu'à un moment donné, il y a la parole. Et dans la danse, tout à coup, il n'y en a plus forcément, et c'est ça qui m'a attiré. J'avais envie d'aller là-dedans. Et puis aussi parce qu'au théâtre, quand même, beaucoup, ça parle beaucoup, 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 beaucoup. Et que ce que j'aime dans le travail avec les danseurs, c'est que ça va tout de suite dedans, ça se jette. Et pour moi, qui peux avoir des angoisses de trop se prendre la tête, tout à coup, ça se jette. Mmh. Et puis, quelque part, ça réfléchit après. Et ça, je trouve que c'est assez salutaire.
Les mots viennent après. Mmh. Ouais. Merci, Nicolas.
Merci à vous.
Et merci. Je sais pas si Laura, si tu veux peut-être venir lire ce texte qui, rappelle-moi le titre du Vous êtes qui exactement, oui. Vous êtes qui?
Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui. Vous êtes qui vous êtes. Vous êtes près de chez vous, au bout de la rue. Ça ressemble à un rêve. Le soir, on dirait que l'immeuble flotte. La lumière n'est ni rouge, ni bleue, ni rien. Au-dessus de vous, et vos pas ralentissent. On croirait que vous attendez. Maintenant, on peut dire, il nage. Vous êtes multiplié par mille, une vidéo qui rame, qui crée à l'infini des images empilées, difformes, indéchiffrables. Vous êtes un problème. Vous tenez debout comment ? Personne ne vous prend les mains. Vous dites quelque chose. Qu'est-ce que vous dites ? Vous ne faites aucun effort. Vous êtes n'importe qui. Vous faites de la peine. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes dermatologue. Tous les jours, vous découpez les peaux. Vous arrachez, vous rassurez, vous mordez, vous tâtez, vous cousez, vous posez un baiser, vous mouchez, vous mentez, vous apposez les mains, vous râpez, endormez, vous poncez, vous blessez, vous rognez, vous grincez. Un jour, vous enlevez, à l'œil, avec le nez, les doigts, analysez, les grains, les poils, les verrues dans le cou, sur les cuisses, étudiez. Tout ce qui déborde vous prend. Vous êtes aspiré. Vous ôtez. Pour vous, la peau, c'est la croûte, une emmerde, à frotter. Depuis toujours, vous dites. Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que vous allez le dire ? Dites-le. Vous dites. Mon visage déborde. Voyant mon visage un jour, j'ai su qu'il débordait. Dites-vous, les yeux, le nez, la bouche, ils sont en train de flotter, ils sont faits pour flotter, ils vivent entourés, la masse entoure et broie, dites-vous chaque jour, la personne s'enfonce, c'est une catastrophe, avez-vous dit un jour, vous raclez, vous bouchez, vous êtes révolté par la peau qui déborde, vous dites, c'est une erreur de ma nature, je rêve de couper les bords. Disiez-vous, je voudrais me couper mes bords, tous les membres, et la peau, et laisser mes organes, les coudre avec un fil, les faire léviter, devenir un bel homme. Dites-vous, dites-nous, vous allez nous dire, pourquoi, pourquoi la peau déborde ? Dites-le, dites deux choses en lui en même temps. Il se passe toujours deux choses. Dites-le. Il se passe en permanence deux choses à la fois. C'est la règle, fixée, répétée. Il ne se passe jamais sur la terre une chose à la fois. C'est impossible. Ça nous fait halluciner, vous dites. Et ça nous fait tous halluciner, criez-vous, disiez-vous. Nous hallucinons, vous dites. Nous hallucinerons. L'histoire est une hallucination. La peau garde l'hallucination. La peau contient l'hallucination mortelle. La peau, c'est l'hallucination du monde. Personne ne demande. Personne ne remarque. Personne ne pose la question. Tout se passe en même temps. Personne ne s'ouvre la tête avec un caillou, avec une barre, avec la griffe d'un grand tigre. Qui se pose la question ? Garde la tête ouverte. Vous dites, celui qui pose la question gardera la tête ouverte, ouverte, disiez-vous, ouverte pendant 1000 ans, ouverte 4000 ans, ouverte par l'ouverture. Taisez-vous, calmez-vous, je vais parler de ce que vous faites. Vous êtes dermatologue. Vous emportez le soir des morceaux de peau dans votre appartement pour construire des lampes, pour recouvrir des livres, pour arranger les sauces, pour soigner votre arthrose. Pour coudre des poupées, vous êtes obsédé. Vous dites, nous sommes monstrueux, nous sommes recouverts, nous sommes enfermés, nous sommes au bord, retenus, sans arrêt, incapables de toucher, incapables de sortir, entourés, sans arrêt d'une couche, d'un film, d'une nappe, de glu. Vous avez raison. Vous écrivez, au hasard, le soir, dans la rue, un texto. Vous écrivez à qui ? Au premier numéro. 06 n'importe quoi. Vous donnez un conseil. Vous écrivez deux mots. Vous écrivez « tais-toi ». Vous écrivez au marqueur sur les portes des voisins. Vous écrivez sept mots. Vous écrivez « un bébé n'est pas une graine ». Vous l'écrivez sept fois. Vous écrivez au tournevis sur l'arbre. Vous écrivez trois mots. Vous écrivez « je veux aider ». Pourquoi vous écrivez ? Vous ne vous souvenez pas. Vous dites « j'aime quelqu'un ». Vous aimez qui ? Vous dites « comme j'ai oublié d'avoir de la mémoire, j'ai écrit ton nom 25 fois sur mon ventre. Maintenant, je me lave jamais. Je me mets devant un miroir debout à regarder. Les animaux, dans les miroirs, ils voient quoi ? Pas de la fumée. Ils voient quoi ? Répondez. Vous ne répondez pas. Les animaux, qu'est-ce qu'ils pensent de leur visage ? Vous ne pouvez pas vous souvenir. Vous êtes comme tout le monde. Vous restez sous votre visage. Votre téléphone sonne. Vous restez sous vos yeux, sous votre bouche cachée, dans votre front. Vous inventez tout. Vous dites « j'ai tout inventé. Je n'ai pas dit ce que je sais. Je ne vais pas le dire. Je ne me suis pas souvenu. J'ai inventé pour personne, n'importe quel jour, au même moment que n'importe qui. » Vous dites, il n'y a pas d'endroit pour se cacher en dehors de soi. On se cache à l'intérieur. On n'est jamais sorti. Les sacs, les vêtements, tout est toujours étroit et trop proche, trop lourd. Un jour, heureusement, vous dites, une brique et une tête se rencontrent. Toute la journée, toute la nuit, depuis toute la vie, on attend. Dans un bar, dans un ordinateur, chez un libraire, on attend. Tous morts, tous à l'arrêt, des objets autour, des pièces, tous sans bouger, on attend d'être inventé. Vous dites, pourquoi les enfants ont des cheveux ? En plus, on leur ajoute des vêtements. Vous dites, c'est pour quoi faire ? Vous murmurez, tous au même moment. Vous dites, ils vivent au même moment, nous vivons tous dans le même moment, dites-vous, dans le monde au même moment. Ils meurent, ils attendent allongés que leurs muscles poussent. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire encore ? Vous voulez dire quelque chose ? Vous dites, il manque peut-être un os, il nous manque peut-être un os transparent secret, un os secret transparent qui manque. Le squelette est de plus en plus fin. Il manque un os formidable. Qu'est-ce que vous faites encore ? Vous êtes près de chez vous. C'est le soir. Vous rentrez. Qu'est-ce que vous dites ? Je m'associe à tous les sons. Je me suis associée à tous les sons. Je forme une association passive, lente, un fœtus. Vous ressemblez à quelqu'un qui dit la vérité. Vous êtes n'importe qui. Vous dites « Bonjour, je suis le fantôme de tout le monde. Ici, la terre va se terminer. »
Merci Laura pour cette lecture. J'aimerais qu'on commence cette petite discussion à partir de tes gestes de publication, notamment sur les gestes de publication en revue, parce que on peut lire beaucoup de tes textes dans de nombreuses revues, comme cette revue là, IF, mais aussi Gnoc, enfin beaucoup de revues. Et j'aimerais que tu nous dises l'importance au-delà, et après on parlera sans doute un petit peu de cette revue que tu fabriques, Muscle, mais ce rapport-là à la revue, et qu'est-ce que ça joue par rapport à ton écriture, ça ?
Je ne sais pas si ça joue, mais en tout cas, j'ai commencé à publier dans des revues il y a quelques années. Mes premiers textes ont été publiés dans des revues d'abord, et ça m'a permis de voir déjà que les textes que j'écrivais au départ, juste comme ça, dans ma chambre, comme à peu près tous les gens qui écrivent, que ces textes pouvaient être publiés et être lus par des gens. Et donc un jour, la première revue dans laquelle j'ai publié, c'était Boxon. Et je me souviens, quand j'ai reçu l'exemplaire de Boxon et que j'ai vu mon texte, j'ai vu que c'était possible qu'un texte que j'ai écrit, moi, dans cette chambre, un jour arrive sous cette forme-là de petits livres livrés accompagnés d'autres textes. Ça m'a un peu donné ça au début. Et puis, par la suite, aujourd'hui, je publie dans des revues des textes qui... Soit des textes qui répondent à des commandes, comme c'était le cas là pour la revue IF, ou bien je publie des textes qui se prêtent au format de la revue. Ils sont des textes assez courts, que je n'ai pas forcément envie de publier sur Internet, parce que je sais que ça ne fonctionnerait pas sous cette forme-là, et qui correspondent bien au format de la revue, et dans ce cas-là, je les envoie.
Cette écriture de revue témoigne aussi, c'est le sentiment que cela nous donne, et c'est, je trouve que c'est fort, en tout cas particulièrement chez toi, témoigne d'une écriture quotidienne, d'un quotidien, d'une écriture qui se fait véritablement un peu au jour le jour. Est-ce que c'est le cas ?
Pas concrètement, en tout cas. Dans ma tête, oui, mais de manière concrète, non, j'écris pas tous les jours. Non, je n'arrive pas à écrire tous les jours. Mais j'écris tous les jours dans ma tête. Quand je marche, quand je prends ma douche, des fois j'ai des phrases, des idées, je prends des notes dans mon téléphone. Mais non, j'écris pas tous les jours.
Par contre, tous les jours, tu dis un mot devant une caméra.
Ah ça oui, ça c'est plus facile déjà, oui.
Et puis ces mots accumulés tous les jours, ça donne un poème mensuel.
C'est ça, ça s'appelle le poème du mois.
Tu peux expliquer ça un petit peu ?
Alors, le poème du mois, c'est une petite idée assez simple. Tous les jours, je me filme en train de dire un mot, et à la fin du mois, je fais un montage de toutes ces petites séquences, et ça fait un poème très hyper séquencé, sous forme de vidéo, un poème d'une phrase de 30, 31 mots.
Qu'est-ce que tu recherches en faisant cela ?
Je sais pas ce que je recherche.
Je ne sais pas ce que tu recherches. Mais ça fait quand même combien de vidéos depuis ? Combien de mois maintenant ?
Ça fait presque 3 ans que je fais ça maintenant. Ça fait plus de 2 ans en tout cas. 2 ans et demi, quelque chose comme ça.
Oui, c'est l'endroit d'un continu, quoi.
Oui.
Et puis, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la question de l'oralité, de la lecture, telle que tu viens de faire là. Et puis la question de l'écriture. J'ai souvent eu l'occasion de t'entendre, au moins l'occasion de te lire. Aussi parce que t'entendre, c'est une vraie expérience, un vrai moment, une capacité d'attraper comme ça l'auditeur. Et j'aimerais que tu nous dises s'il y a une différence entre écrire pour le papier et écrire pour la lecture.
Oui, jusqu'à présent, il y avait une différence, mais je crois que c'est pas quelque chose de fixe. Je crois que c'est pas quelque chose de forcément immobile. Jusqu'à présent, il y avait une grande différence, et je crois que c'est encore le cas, mais ça va peut-être changer. Et là, ce soir, c'est la première fois depuis que je lis, que je fais des lectures, que je lis assise. C'est la première fois que je lis assise, et c'est la deuxième fois, je crois, que je lis un texte publié, un texte fait pour être publié, un texte pas fait pour être justement lu.
Comment t'expliques ce changement là en cours ?
Là, c'était une soirée autour de la revue IF, donc j'ai lu mon texte publié dans la revue IF. Voilà. Et j'essayais de réfléchir un petit peu à ça, mais je crois que ce texte-là, par exemple... il n'a pas besoin de moi. C'est-à-dire que quelqu'un peut le... Il tient à peu près comme ça, à l'écrit. On peut le lire, on peut le lire dans sa tête. Il est indépendant, plutôt indépendant. Et les autres textes que j'écris pour les lire, pour faire des lectures engagées, quoi, performées, engagées, eux, tout seuls, ne tiennent pas très bien. Il faut vraiment que je les porte. Et moi-même, je ne tiens pas du tout bien. Donc, ils me portent aussi. Donc, il y a un truc comme ça, une sorte de tension entre le texte et moi, qu'il n'y a pas là. Là, c'est quelque chose de différent. C'est la première fois que je fais ça. Et surtout de lire assise, quoi.
Que ce texte, il n'ait pas forcément besoin de ton corps, là. C'est ça que ça veut dire aussi ?
Parce que ce texte, il tient tout seul, il est plus tranquille. Là, je suis la route, quoi. Je suis le petit chemin.
Il y a aussi, quand on t'entend, là, on l'a un petit peu entendu, un rapport à quelque chose que j'appellerais, je sais pas, le chant, en tout cas quelque chose d'une musicalité, d'un rythme, d'une forme de ritournelle, et qui t'emmène et en même temps nous emmène, quelque chose d'un voilà, qui a à voir avec le transport. Peux-tu dire quelques mots peut-être sur ça, sur le chant, parfois sur certaines lectures, tu laisses traîner parfois la dernière syllabe, tu la laisses comme ça se poser comme un tapis sur lequel le mot suivant viendrait comme ça se poser par-dessus. Tu peux nous dire quelques mots sur ce rapport au chant ?
C'est-à-dire que j'aurais un peu de mal à en dire quelques mots, justement, parce que c'est quelque chose que je contrôle pas, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que je travaille. Par exemple, ce dont tu parlais là, des syllabes traînantes en fin de mots, c'est vrai que ça m'arrive assez souvent. Mais au moment où j'écris le texte, je me dis pas ah tiens là je vais un peu traîner au moment de le dire, donc là dans la phrase suivante je vais faire pareil, ça va créer un petit truc. Non, c'est pas du tout étudié comme ça. Ça vient au moment de le lire, et donc je saurais pas bien t'en dire grand chose.
C'est-à-dire que le chant vient au moment de la lecture.
Oui, voilà.
Pas au moment de l'écriture.
Au moment de l'écriture, non. C'est plutôt un rythme intérieur, parce qu'au moment d'écrire, je suis pas en train de lire. Donc c'est un rythme intérieur, un truc comme le battement de cœur, un truc très binaire. Et au moment de l'oralisation, là, ça prend un peu plus d'ampleur.
Il y a peu de temps, lors d'une rencontre sur des chantiers poétiques auxquels tu participes, à Bourges notamment, tu avais pu t'exprimer, tu parlais de textes qui venaient vers toi. Tu disais,
d'accord,
des textes qui viennent vers moi. Oui. Non pas des textes forcément que tu écris et que tu donnes à l'autre, mais plutôt comme si ces mots que tu couches sur le papier, ces phrases, elles venaient vers toi. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui vient vers toi.
C'est un peu une platitude, ce que j'ai dit. C'est un peu un truc vieux cliché. Hein. Ben ouais, ben c'est... Bah oui, je sais pas moi pourquoi un dermatologue. Enfin, j'ai pas cherché une liste de métiers. Je me suis dit tiens, je vais choisir dermatologue.
T'as pas ouvert l'annuaire, quoi.
Non, voilà, c'est venu.
Ça veut dire qu'il y a un rapport avec une certaine une écriture libre, quoi, comme ça, qui.
Bah oui.
Tu peux dire un petit peu ça de l'écriture libre ? Qu'est-ce que ça est ?
Si elle n'est pas libre, l'écriture, c'est de l'écriture, je sais pas, technique, ou c'est pas de la poésie en tout cas. Parce que moi, j'ai l'impression que là, vraiment, dans l'écriture créative, on peut vraiment faire n'importe quoi, tout ce qu'on veut, tout peut venir. C'est absolument libre. Ça peut être absolument absurde, inconvenant, disgracieux, répétitif à l'excès, ça peut tout être, c'est complètement ouvert.
Il faut travailler, il faut être dans un esprit ou travailler une disposition pour être libre quand même, j'imagine.
C'est une grande question. Je ne sais pas si ça peut se travailler d'être libre. De se sentir totalement follement libre dans l'écriture et de sentir qu'il y a un emportement. En tout cas, à moi, c'est quelque chose qui m'arrive pas toujours. Hein. C'est quelque chose d'assez rare, et quand ça arrive, c'est un moment vraiment gracieux, grand, intense, court.
Et puis, toujours dans cette rencontre-là, hein, qui était à Bourges, c'est un dispositif cyclique, et donc le centre régional autour de la question du livre. Tu avais invité un certain nombre d'auteurs. Et puis tu disais, bon, alors voilà, il y a eu un premier pas de la poésie, elle est sortie du livre, c'est tout ce qu'on disait sur la question de la réalité. Et puis tu disais, bon, il faudrait faire un deuxième pas, ce serait le pas de la poésie qui sort de la poésie.
Ouais. Oui, oui, ça je le crois. Je crois qu'il faudrait vraiment essayer de faire sortir la poésie de la poésie. En utilisant les moyens, tous les moyens du monde, quoi. Faire sortir la poésie par exemple, on parle des revues, mais les revues, elles sont lues essentiellement par les gens qui écrivent des textes de poésie, justement, dans des revues ou pas. Ça reste assez cloisonné, assez fermé. Et puis surtout, comme c'est cloisonné, fermé, c'est très confortable, souvent, et quoi qu'on propose, quelle que soit la qualité du texte, on est applaudi. On est applaudi. Je trouve que c'est un peu... C'est un peu déprimant, ce cloisonnement, que ce soit toujours si... confiné. Et par exemple, il y a des tas de biais et de moyens qui ne sont pas encore utilisés dans la poésie. Par exemple, sur YouTube, qui est quand même vraiment le moyen de communication fou du moment, il y a des tas de chaînes d'histoire, de psychologie, d'humour, de sport, de vraiment tout ce qu'on veut, les choses les plus folles. Mais il n'y a pas vraiment de poésie. C'est pas parvenu encore aux gens de YouTube qui sont des jeunes gens. Et je trouve ça assez dommage. Parce que ce qu'on voit, justement, c'est des choses assez codées, assez sages. Et moi, je crois qu'il faudrait vraiment essayer de sortir la poésie de son petit carcan. Parce
que l'espace est trop petit, quoi.
Ah oui, beaucoup trop petit. Oui, oui, vraiment très petit.
Et est-ce que justement cette vidéo-là que tu fais tous les mois participe de ce travail-là, participe de cet exercice de tenter de jeter comme ça la poésie en dehors de son champ ?
Non, non.
Non ?
Non, ça c'est plus un truc personnel, une petite expérience, une petite création, mais c'est pas dans ce but-là.
Tu as publié dans la maison d'édition derrière la salle de bain, je crois, trois plaquettes.
Oui.
Il me semble. C'est une qui s'intitule À chaque fois, simplifié et menace.
Le système naturel est simplifié.
Le système naturel est simplifié. Ouais. Et puis, chez Cheyenne Éditeur, c'est La main de la main. Et là, cette fois-ci, c'est pas une plaquette, c'est un livre.
Oui.
C'est quoi la différence pour toi ? Voilà, une plaquette, c'est-à-dire un texte ou deux textes et. Un livre ou c'est peut-être une série de textes qui se retrouvent comme ça rassemblés dans un objet.
J'aime pas beaucoup le terme de recueil parce que justement moi, je trouve qu'un livre, enfin le livre tel que je l'imagine ou peut-être tel que je l'aime, il n'est pas constitué de textes qui ont été recueillis, rassemblés comme ça, mais mais ils forment ensemble un livre. Un livre. Et ce n'est pas un recueil de plusieurs textes. Et donc, ouais, la main de la main, ça a été pensé comme un livre, comme un ensemble de textes qui sont faits pour aller l'un avec l'autre. Et les plaquettes, les trois petits textes chez derrière la salle de bain, ça se rapproche des publications en revue. Ce sont des textes courts.
Voilà. Parlons un petit peu de la revue Muscle.
Oui.
Cette revue, combien d'éditions déjà maintenant ? C'est donc, elle existe depuis ?
Je crois qu'on en est au numéro 8.
Numéro 8, donc avec Arnaud Caléja qui est là. Vous allez présenter le dernier numéro de la revue Muscle,
oui,
donc
ici.
Le 9 avril, il me semble le mercredi 9 avril ici. Une revue un peu particulière puisque c'est une revue très légère. deux textes.
Oui, c'est ça, deux textes, deux auteurs, tous les deux mois.
Et tu peux nous en dire un petit peu plus sur pourquoi ce choix comme ça de cette légèreté et puis de ce duo.
Pourquoi ce choix? On voulait quelque chose d'assez simple à réaliser, quelque chose d'assez simple aussi à diffuser, un format très accessible. Et puis Arnaud a eu l'idée de ce pliage-là, qui fonctionne très bien. Et on s'est dit, deux auteurs là-dedans...
Ce pliage, c'est-à-dire qu'elle se déplie comme ça?
Oui, voilà, elle se déplie.
En accordéon?
Oui.
Et pour continuer à témoigner un petit peu de, à la fois, donc, les gestes d'écriture dont on a parlé un petit peu, et des gestes, disons, de contribution ou de participation, comme ça, de contribution à la vie littéraire, le paysage, gestes, fabriquer des revues, écrire dans des revues. Là, on parle d'une revue qui est la revue IF. Il y a... quelques jours, le 19 mars, s'est tenu un festival qui s'appelait e-transport. Un festival qui était là aussi, sur lequel la revue Muscle était impliquée. E-transport.
Transport.
Transport, ouais. Pas e-transport.
Non.
Juste transport.
Voilà.
Pourquoi il y a ce E qui est arrivé sur mon papier?
Je ne sais pas. Parce que c'est un e-festival de poésie. Ah. Voilà.
Tu peux nous dire quelques mots sur ce festival? C'est tenu ici à Marseille.
Oui, bon, c'est un festival un peu particulier parce qu'il a lieu dans trois villes en même temps, qui sont donc Lille, Marseille et Montréal. Et dans chaque ville, cinq auteurs font des lectures. Et les lectures sont retransmises en direct dans les autres villes. Donc dans chaque ville, on entend et on voit 15 auteurs lire. Et en réalité, il y a cinq auteurs présents et les 10 autres, on les voit sur écran en streaming en direct. Voilà. Et par la suite, on va diffuser tout ça aussi sur Internet.
Dans la revue Diacritique, une revue en ligne, une revue de critique littérature, mais sur laquelle on peut aussi trouver des textes de facture littéraire, qui est entre autres animé par Jean-Philippe Cassier. Il t'avait proposé de participer ou de contribuer à une question qui est adressée à un certain nombre de jeunes auteurs, ou pas jeunes d'ailleurs, des auteurs tout court, aujourd'hui. Qui était la question de qu'est-ce qu'écrire aujourd'hui. Alors, je ne vais pas te demander de lire ce que tu as écrit pour cette revue, mais comment tu as répondu à cela?
Ah, alors j'ai répondu à ça il y a assez longtemps, en fait. Ça a été publié tout dernièrement, mais j'y ai répondu il y a même très longtemps, parce que c'est une demande que Jean-Philippe m'avait faite il y a vraiment un bon moment. Et comment j'y ai répondu J'ai essayé, je crois que je parle au début du texte, de la manière dont j'écris quotidiennement. Donc je parle de chez moi, du café où je vais, du matin, de l'après-midi, du moment où ça vient en général. Et ensuite, je donne quelques extraits de ce que j'écrivais à ce moment-là. Et c'est des petits blocs, des petits paragraphes.
Si vous avez des questions ou des remarques, autres.
Moi, je voulais savoir, concernant ce petit format, vous avez fait des 30 mots pour faire un poème, si les mots étaient écrits à l'avance, ou si c'était l'inspiration du jour, est-ce que ça fonctionne un peu comme un cadre exquis ou...
Non, c'est écrit à l'avance. J'écris cette phrase à l'avance. En général, c'est tiré d'un texte que je suis en train d'écrire. En général, c'est un morceau d'un texte que je suis en train d'écrire ou c'est une phrase qui m'a servi de point de départ. Mais je crois que si j'utilisais la deuxième option que vous proposez d'écrire au jour le jour, ce serait assez périlleux. Je risquerais de me tromper ou de faire des phrases vraiment bancales dont je ne serais pas du tout contente. Donc oui, j'écris ça plutôt à l'avance, enfin, systématiquement à l'avance d'ailleurs, oui.
Mais du coup, quand vous les lisez au fur et à mesure, j'imagine que peut-être il y a un décalage. Enfin, sur un mois, l'inspiration, elle varie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le moment où on a envie de changer, de donner une autre inflexion à la phrase ou...
Non, mais c'est vraiment une phrase très courte. 30 mots, ça va très vite. Et puis surtout, j'essaie pour ce format-là de ne pas être hyper hyper dur quoi, et pas être trop dur et trop exigeante. C'est je prends la phrase qui vient et puis j'y réfléchis pas trop.
Voilà. Et vous la diffusez sur YouTube?
Oui.
La revue IF, là, il y avait une commande qui était l'amour. La commande, c'est quelque chose que tu prends facilement? Est-ce que c'est justement une source d'excitation pour l'écriture ou pas du tout? Est-ce que c'est un calvaire ou est-ce que c'est une joie, la commande?
Ça dépend de la thématique. Là, l'amour, c'était quand même très, très ouvert et très vaste. Donc, je l'ai fait avec plaisir, c'est venu assez facilement. Et parfois, quand on me propose des commandes avec des thématiques qui n'inspirent pas du tout, je refuse. Mais en général, ça me stimule plutôt, oui. Puis il y a une date butoir, donc ça me pousse à vraiment terminer un texte à un moment, voilà.
Mais c'est important de terminer, de s'en débarrasser un peu aussi.
Oui.
Merci. Merci Laura.
Merci.
Merci à toi. Merci à vous aussi.
C'était une soirée des mercredis de Montevideo autour de la présentation de la revue IF. Merci à Laura Vasquez pour la lecture de son texte « Vous êtes qui ?» à Nicolas Grimbard pour la lecture du texte de Mohamed El-Khatib « L'amour bilan » et à Hubert Collat pour la présentation de la revue IF. La revue IF est distribuée et diffusée par la maison d'édition Les Solitaires Intempestifs. Merci à Étienne pour la réalisation technique. Une émission proposée par les mercredis de Montevideo en collaboration avec Radio Grenouille.